Professeur Soulage, je vous prie de nous présenter le thème de votre conférence.
Je vous remercie. Hier, nous avons donc réfléchi sur la question de l'espace public et les possibilités de son esthétisation et relié à cela sur le corps Internet. Pourquoi le corps Internet ? C'est parce qu'il y a un livre qui vient de sortir, que j'ai fait, qui est sorti justement lundi, et qui a pour titre « Le corps Internet ». Alors, je vous disais sur la question de l'esthétisation de l'espace public. L'espace public, c'est assez compliqué déjà à le définir, mais l'on pourrait dire que c'est l'espace que l'on partage avec d'autres gens, et ce, publiquement. Pour faire quoi ? Eh bien, pour vivre, mais aussi pour réfléchir, penser, agir. Quelle pourrait être l'origine de l'espace public ? Oh, on pourrait dire que dès qu'une société fait société, il y a un espace public et ça se joue dans des rituels, dans des jeux, dans des cérémonies et dans des rencontres entre membres de ce groupe. Mais il y a des inflexions dans l'histoire à propos de cet espace public. Avec l'agora des Grecs, il y a 2 millénaires et demi, les hommes se réunissent, non pas simplement pour être ensemble, mais pour décider un peu, en tout cas une minorité, de leur destin politique. Donc, on comprend que l'espace public, c'est ce qui permet à un groupe de tendre vers autre chose que ce qu'il n'était, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de mutation par son fonctionnement même, mutation en corps politique, corps religieux, etc. Et aujourd'hui, dans l'espace public, il y a une tentative de faire en sorte que l'espace public soit vécu le mieux possible. Est-ce que c'est pour des raisons humanistes ? Peut-être. Parfois, c'est simplement pour des raisons de protection. C'est-à-dire qu'on essaye d'embellir l'espace public pour que les gens qui constituent cet espace public ne se révoltent pas, ne se mettent pas contre le pouvoir. Le sport joue un rôle important. Mais il y a aussi, bien sûr, l'urbanisme, l'architecture, la peinture, etc. Et on se rend compte qu'il y a un problème dans la mesure où cet embellissement est plutôt là pour calmer les gens, une sorte de drogue douce, que pour qu'ils aient un véritable rapport avec la beauté. Et on peut se demander si l'esthétisation n'est pas une manière détournée qu'à l'espace public de maîtriser encore ce groupe, cette foule, tout ce qui paraît un petit peu dangereux, et de donner l'illusion de produire, si j'ose dire, une certaine beauté, alors que ce n'est pas le cas. Mais il y a, vous le savez, comme moi, et votre radio en est un signe, il y a aujourd'hui un nouvel espace public, c'est l'espace public virtuel, où je vais quand je veux, ou du moins je crois que je suis dans une volonté, une liberté absolue face à cet espace public. C'est l'espace d'Internet. Eh bien, le problème se pose de la même manière. Et c'est la deuxième partie de la conférence d'hier. Ce monde d'Internet transforme mon propre corps. Non pas parce que d'un seul coup je vais avoir tel ou tel organe qui va se mettre à pousser en fonction de cet espace Internet. Non, il transforme mon corps dans ses usages, dans ses pratiques, dans sa manière d'être. Il y a d'autres manières d'envisager Internet. Internet peut être un lieu qui permet la réflexion, le croisement de connaissances, le fait que je peux, là, aujourd'hui, aller voir via Internet tel tableau de Rembrandt qui est à l'Ermitage, dans la salle 43, mais donc mon corps peut se déplacer, si j'ose dire, indépendamment de ses lourdeurs et de ses impuissances, et dans cet aspect-là, le corps Internet est un corps gagnant. Bref, qu'est-ce que je voulais dire avec ce concept de corps Internet que j'élabore et je travaille dans ce livre, c'est que, et par les usages, et par les nouvelles technologies, et par le monde nouveau dans lequel nous sommes rentrés, qui est le monde d'Internet il y a maintenant une trentaine d'années, eh bien, tout se transforme, et mon corps aussi se transforme, et l'on ne peut plus dire que je suis comme mon corps est, comme il était il y a un certain temps, avant Internet, et qu'il est lui-même frappé par cette transformation. Et vous voyez que nous nous éloignons de plus en plus de ce réel, et que quand on prend conscience de cela, on prend conscience aussi, pour revenir à notre point de départ, que l'espace public n'est pas un espace qui est face à nous, mais c'est un espace qui se construit et qui est en mouvement, et que le corps Internet n'est pas un corps qui est donné une fois pour toutes, mais c'est un corps qui lui aussi se construit, est en circulation, et que l'important, c'est peut-être d'être conscient des risques d'illusion et d'être soi-même en vigilance vis-à-vis de son propre corps et de ses propres images.
Professeur, quelle est l'image que vous allez emporter de la Bulgarie ?
Votre question est une très bonne question parce qu'elle en dit plus sur celui qui répond que sur la Bulgarie elle-même. Permettez-moi un détour. J'avais posé cette question-là à une amie à propos de Paris, à une amie d'Argentine. Elle m'a dit ce qui me frappe le plus en France, c'est que les rues ne sont pas droites. Et quand je suis allé à Punta Arenas, j'ai vraiment compris ce qu'elle voulait dire. Nos villes sont des villes anciennes, comme la vôtre, et non pas des villes quadrillées, c'est-à-dire qu'elles se sont construites. Alors, Sofia, voyez ce que j'aime le plus à Sofia, ce sont les rues avec les arbres, ces rues qui sont, quand je viens, j'ai souvent de la chance, nimbées de soleil. Nous arrivons en automne, les feuilles sont en train de tomber. Il y a une douceur de vivre, c'est-à-dire un monde qui est un beau monde, qui est tel qu'il a été mis en image par des artistes, mais mis en texte aussi par des écrivains. Alors, bien sûr, je suis conscient que l'image que je garde de Sofia, c'est pas une image nostalgique, c'est une image un peu romantique, c'est une image recréée, et que ça ne correspond pas, bien sûr, à la totalité de Sofia ou à la totalité de la Bulgarie, il va de soi. La première idée, c'est cette idée de rue, voyez-vous. La deuxième idée que je garderai de la Bulgarie, ce sont ces magnifiques monastères qui nous renvoient à un art qui est à la fois, dirais-je, splendide, mais ordinaire. Ce qui m'a frappé, pour moi, qui ne suis pas du tout spécialiste du sujet, dans ces monastères, c'est le côté parfois rudimentaire et par là même charmant des fresques et des peintures murales qui étaient autour de ces monastères, de ces lieux. Voilà les deux premiers points qui me frappent de la Bulgarie. Et puis le troisième point, ce sont ces personnes remarquables que je rencontre qui, je me dis, connaissent parfois 5-6 langues, sont obligées parfois, étant donné les circonstances économiques et la géopolitique et le fait que les problèmes sont encore tous devant nous, sont obligés de vivre parfois difficilement et arrivent à se nourrir d'une culture qui est certes extrêmement positive, enrichissante, mais qui ne transforme pas la réalité matérielle immédiatement. Donc voyez-vous, c'est le sentiment que quelque chose de très riche existe et a existé, et que dans notre vieille Europe, on n'a pas trouvé en 25 ans, c'est quand même très long, les moyens de permettre à un pays comme la Bulgarie d'avoir, disons, une prospérité plus grande, de se raccrocher mieux à un certain monde. Mais le problème, voyez-vous, se pose aussi pour notre pays comme la France, qui, à force de rentrer, de suivre, si j'ose dire, les sirènes d'un certain nombre de discours simplistes qui, sous prétexte de faire un grand continent comme l'Europe, est en fait d'aligner les gens sur un néolibéralisme, nous aboutissons à des cruelles réalités, parfois économiques, en tout cas toujours humaines, dans la mesure où, au lieu de permettre à l'humanité de chacun de se développer, de créer une interhumanité, on débouche aujourd'hui, dans mon pays et peut-être dans le vôtre, sur, d'une part, des individualismes et des égoïsmes forcenés, et d'autre part, des constitutions de petits groupes qui n'ont pas du tout comme idéal la chose publique, l'espace public, bref, ce qu'on appelle la République.